CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h ce matin. Au micro, c'est Jonathan Bord pour la présentation, à titre exceptionnel, en l'absence temporaire de Jonathan de nuit. Mais il y a également toute la fine équipe autour de la table. D'abord, Monique, comment vas-tu ce matin?
Écoute, ça va, très bien.
De quoi vas-tu nous parler?
Je vais, dans la suite de la chronique précédente qui présentait l'origine, l'évolution et les institutions européennes, je vais vous parler des députés et des groupes politiques au Parlement européen.
Ensuite, Jean Aubert, comment vas-tu?
Très bien, Jonathan.
L'eau douce disponible pour l'homme sur Terre représente moins de 1% de l'eau douce au total, qui elle-même ne représente que 2,5% de l'eau sur Terre. Le nouveau cycle de l'eau sera ton sujet de chronique aujourd'hui.
En effet, et les chiffres que tu as cités sont à garder à l'esprit, car ils sont essentiels pour appréhender ma chronique d'aujourd'hui.
Ah mais c'est pour ça que je les connaissais par cœur. Et enfin, Alain, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, si l'eau est sous terre et sur la terre, moi je vous emmène résolument sous la terre, puisque je vais vous parler de l'histoire du métro parisien.
Parfait, eh bien, Radio VCE, c'est la 80e, c'est parti.
Du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, est-ce que tu peux rapidement rappeler le mode de scrutin des élections des députés européens au Parlement?
Oui, absolument. Je rappelle qu'ils sont élus au suffrage universel direct tous les 5 ans, que chaque État dispose d'un nombre de sièges défini en fonction des données démographiques les plus récentes, entre 6 députés pour les plus petits États et 96 pour les plus importants. Et en fait, seule l'Allemagne dispose de 96 sièges. La France dispose du deuxième contingent avec 81 sièges à pourvoir le 9 juin 2024. C'est pour cela que chaque liste présentée doit comporter 80 candidats. Les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. En tout, 720 députés seront élus en juin. En 2019, il y en avait 705. Une fois élus, les députés de chaque État se regroupent en fonction d'affinités politiques.
Ah oui, donc le nombre a dû baisser à cause du Royaume-Uni, j'imagine.
Oui.
Et finalement, combien est-ce qu'il y a de groupes parlementaires et quels sont-ils?
Alors, il y a à ce jour 7 groupes politiques et un 8e groupe de non-inscrits de 50 eurodéputés. Mais par exemple, les 13 députés hongrois qui étaient au PPE, on va en parler tout à l'heure, au Parti Populaire Européen, l'ont quitté en 2020 et ont rejoint le groupe des non-inscrits. Gilbert Collard fait également partie de ce groupe de non-inscrits. Donc, les non-inscrits, c'est un petit peu compliqué. Alors, pour former un groupe au Parlement européen, il faut au minimum 23 députés européens originaires d'au moins 7 États membres de l'UE. Les eurodéputés peuvent décider de former un nouveau groupe ou d'en changer à tout moment de la législature. Alors, si on commence par la droite, le PPE, le groupe du Parti populaire européen avec 177 députés, c'est le groupe le plus important, ça représente 25% des sièges. Son président, du coup, est allemand. La délégation française est composée de 8 élus, dont 7 appartenant au LR. Donc, quelques noms que vous devez connaître, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Geoffroy Didier, François-Xavier Bellamy, par exemple. Ce groupe a enregistré en 2019 un fort recul. Ils étaient 20 dans la mandature précédente. On peut dire qu'ils représentent la droite conservatrice. Il rassemble du centre droit à la droite chrétienne, voire nationaliste. Il est attaché aux questions de compétitivité et de croissance, à la protection des PME, à la défense du libre-échange, mais aussi aux questions de frontières et à la dimension sécuritaire, à la lutte contre l'immigration illégale. Alors, les rapports de force à l'intérieur, 30 élus pour les Allemands, 16 pour les Polonais, 14 pour les Roumains, 13 pour les Espagnols et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 7 Français. Le CRE, c'est le groupe des conservateurs et des réformistes européens. 68 eurodéputés, ça fait 10% des sièges, issus de 18 pays différents. Le groupe le plus important, c'est 27 Polonais. Les Italiens sont 10, les Néerlandais 5 depuis le 6 février 2024, un Français, Nicolas Bay, membre du parti Reconquête de Zemmour, a rejoint ce groupe. Très à droite sur l'échiquier, ce groupe prône le libéralisme économique, le conservatisme sociétal, la lutte contre l'immigration et l'affaiblissement de l'UE par antifédéralisme. Alors, ID, groupe Identité et Démocratie, donc là on est à l'extrême droite, 62 députés issus de 8 pays, 10%, donc à peu près des eurodéputés aussi, 25 Italiens, la Ligue italienne, la formation de Matteo Salvini, 18 Français du Rassemblement national, Jordan Bardella, Jeanlin Lacapelle, Thierry Mariani, 9 Allemands de l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne, et du FPÖ autrichien. Pour ces deux forces, de nombreux liens avec les groupes néo-nazis ou les fascistes italiens et le Vlaams Belang belge rejettent tous l'immigration, le multiculturalisme, sont eurosceptiques et avouent une forte hostilité à l'islam. Alors il y a quelques positions divergentes entre la Ligue italienne qui est pour une répartition européenne des demandeurs d'asile, le RN et l'AFD sont contre. Le RN est pour un certain protectionnisme en matière économique. L'AFD sont des libéraux en accord avec l'économie de marché. Hein, donc en ce moment, je pense que vous avez suivi les problèmes qu'il y a eu en Italie, où l'écrivain antifasciste Antonio Scurati a été déprogrammé d'une émission sur la télévision publique italienne. Il y a en ce moment une vraie guerre menée par Meloni et son parti pour le contrôle des médias, donc sur la RAI. Hein, donc il y a des vrais problèmes là qui se profilent sur effectivement la mainmise d'un média extrêmement important en Italie. Voilà, il y a eu plusieurs membres de l'AFD, du FPÖ aussi, qui ont été condamnés pour des ratonnades, pour des incendies de centres d'immigrés. Enfin bon, on est vraiment dans une extrême droite très active.
Et puis je crois que l'AFD avait également fait polémique par des propositions, notamment d'exil de masse par les populations.
Absolument, absolument. Alors, on a le groupe... Ensuite, Renew Europe, c'est donc le groupe qui a été créé en 2019, qui est le successeur de l'Alliance des démocrates et des libéraux, 101 élus, troisième force politique du Parlement, 14% des eurodéputés donc. Il regroupe des députés de 24 États, 23 députés français, c'est la première force au sein du groupe, présidé par Valérie Ayer. D'autres noms, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, puis 9 Espagnols, puis 7 chacun pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la Roumanie. Eux portent plutôt une vision fédéraliste de l'Europe, favorable à un approfondissement de la construction européenne et à la défense des libertés individuelles.
Gilles Boyer, que les Chavillois qui connaissent. Ont le plus de mémoire connaissent, puisqu'il a été candidat aux élections législatives de 2017.
Absolument, absolument. Voilà.
Et maintenant, parlons un petit peu des forces européennes de gauche.
Oui, alors, il y a SED, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, centre-gauche de l'échiquier, deuxième force politique du Parlement, 143 eurodéputés, 20% des sièges, issus d'une quarantaine de partis de 26 États membres. L'Espagne, 21 députés, l'Italie, 16, l'Allemagne, 16, la Roumanie, 10. La délégation française est composée de 7 eurodéputés, donc quelques noms connus, Raphaël Glucksmann, Pierre Laroutourou. C'est une vision plutôt progressiste et intégratrice de l'UE, plutôt une gestion solidaire des migrations, solidaire entre les pays européens déjà, et leur projet tendre vers une égalité durable dans toutes ses dimensions, sociale, économique, politique, territoriale, donc également la promotion de la stabilité et de la démocratie à l'échelle mondiale. Le groupe ALE, Les Verts, Alliance Libre Européenne, c'est un groupe assez divers, qui rassemble des écologistes et des régionalistes. C'est la quatrième force, avec 72 élus, donc un peu plus de 10% des eurodéputés, en provenance de 17 des 27 États, très peu des États de l'Est. Allemagne, 25 députés, dit Grünen. L'Europe Écologie Les Verts, 12 députés, dont Marie Toussaint, Karima Deli, David Cormand. En général, des votes assez homogènes, sur le développement durable dans l'énergie, l'agriculture, une opposition au traité de libre-échange, la volonté affichée de justice sociale et fiscale et de plus de transparence et de démocratie en Europe. Enfin, on a la gauche radicale, GUE-NGL, 37 eurodéputés, 5% des sièges issus des 13 États, 6 pour la France, Manon Aubry, Leïla Chabi, Emmanuel Morel, 6 pour l'Espagne, 5 pour Die Linke en Allemagne. Ligne alter européenne prône une réforme de l'Union européenne pour plus de démocratie, une alternative aux politiques d'austérité, un modèle de développement écologique, une politique d'intégration solidaire des migrants, le respect des droits de l'homme et la coopération avec les pays tiers.
Merci Monique pour ce tour d'horizon. On voit bien que le paysage est recoupe en partie, mais pas seulement le découpage national en France. En tout cas, c'est un paysage qui marque des rapports de force qui peuvent être modifiés aux élections de juin. Donc on invite tous ceux que ça intéresse à se manifester dans les urnes le 9 juin. On le sait, compte tenu des situations nouvelles depuis 2019, il y a eu beaucoup de crises multiples en Europe, depuis donc la sortie du Royaume-Uni, depuis ce qui se passe en Ukraine, l'urgence climatique, les débats sur l'agriculture, les questions de l'accueil des migrants, enfin tout ça c'est des questions absolument brûlantes. Et ce contexte donne une importance et une tonalité particulière à ces prochaines élections. En tout cas, merci Monique. Et à bientôt. Tout de suite, la chronique de Jean Aubert.
Terre à terre avec Jean Aubert Dufaux.
Jean Aubert, tu viens nous parler de nouveaux cycles de l'eau. Qu'est-ce que tu entends par là et qu'est-ce qui est enseigné depuis des siècles dans nos écoles à ce sujet ?
Alors, tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que l'eau est utilisé essentiellement pour l'économie. Alors le cycle de l'eau est faux, tel qu'enseigné dans les écoles. Alors, il s'agit d'une représentation qui est purement naturelle et qui ne fait jamais intervenir l'homme, qui est la cause majeure de la pression sur cette ressource parmi d'autres. Tant qu'on n'aura pas changé notre rapport à l'eau, on n'apportera pas de solution. Et pourtant la communauté scientifique et le GIEC ont depuis longtemps décortiqué le sujet et proposer de très nombreuses pistes de travail.
Alors, finalement, en quoi est-ce que ça ne correspond plus à ce qu'on continue à nous enseigner ?
Alors, le cycle de l'eau tel qu'il est enseigné est le suivant. Alors, c'est évaporation, transport dans l'atmosphère par le vent et les nuages, retombée sous forme de pluie, de neige, écoulement sur les continents et retour aux océans. Alors, cette eau que les hydrologues ont qualifiée d'eau verte ne l'est plus vraiment. La réalité, elle est tout autre. Car il faut ajouter à ce cycle le réchauffement climatique, les multiples interventions humaines et les effets délétères sur la disponibilité de la ressource pour nous, ainsi que la faune et la flore. Et cela à de multiples niveaux, car ils sont en réalité tous interdépendants. Pour nous, Chavillois, au plus concret, la principale problématique, elle vient de l'urbanisation et de la pollution des sols. Et pour ça, on en a déjà du reste parlé.
C'est sûr.
Alors, il faut noter qu'en France, à cause de la pollution, un grand nombre de forages sont désormais indisponibles car la qualité de l'eau contenue dans la nappe se trouve en dessous et en deçà des normes autorisant son exploitation. Alors à cause de l'urbanisation, l'eau va pas pénétrer dans les sols et donc les nappes vont rester à des niveaux alarmants, ce qui est le cas actuellement, malgré de fortes précipitations. Par contre, venant alimenter, elles, les rivières et les fleuves, et ça provoque des inondations, des crues subites.
Oui, on voit ça de plus en plus fréquemment. Et finalement, c'est quoi le rôle de notre usage au quotidien pendant ce cycle ?
Alors, notre rôle est très mineur, en réalité, à l'exception des déchets que l'on produit et qui peuvent avoir un impact sur la qualité de celle-ci, ainsi que de grosses piscines privées. Alors, notre consommation d'eau, côté particulier, est plutôt, contrairement aux idées reçues, globalement acceptable, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Alors, il faut savoir que l'eau que nous consommons va être ensuite retraitée par des usines qui vont ensuite les réinjecter de façon circulaire, si tout va bien, dans le cycle de consommation. Et dans le cas contraire, dans les rivières et les fleuves, après être passé par un cycle naturel ou non d'épuration. Alors on est loin du cycle d'évapotranspiration, entre autres, car avec l'exploitation de nos forêts de proximité, il reste que bien peu de chênes matures, à savoir 120 ans et plus. Il faut savoir qu'une chênaie de plus de 120 ans, elle restitue 25 tonnes d'eau par jour à l'atmosphère, à l'hectare, en contribuant, car nous sommes en zone humide, à sa restitution sous forme vertueuse. Il pourrait du reste être intéressant de faire participer nos concitoyens aux décisions concernant la politique municipale de gestion de cette ressource à travers des groupes de travail citoyens. Bien entendu, ce à condition de les former et de les informer sur la réalité de ce cycle.
Oui, c'est toujours la même chose finalement, qu'on parle de réseau urbain de chauffage, ou qu'on parle de réseau d'eau, d'électricité, etc. Et finalement, quels sont les autres niveaux concernant l'eau sur lesquels nous, humains, entrons pleinement dans ce cycle ?
Alors, au niveau national, il y a l'agriculture conventionnelle qui pollue allègrement les sols. Et de par son industrialisation de plus en plus forte, les tasses, par la même occasion, les rendant imperméables. Il faut aussi citer les centrales nucléaires, qui consomment énormément d'eau. Alors il faut sortir de l'image d'Épinal qu'EDF et nos politiques diffusent, à savoir que 98% de l'eau des centrales est restituée, ce qui est faux. Si cela était valable pour les centrales de première génération qui tournaient en circuit ouvert, ce sont les centrales qui ont été construites sur le Rhône. Malheureusement, les autres générations sont des centrales qui tournent à la fois de façon ouverte, mais aussi de façon fermée. Cela représente 30 à 40% de l'eau qui s'évapore et ne revient pas dans le milieu, car celle-ci ne s'effectue pas en zone humide. Ainsi, la ressource, elle est perdue. L'industrie chimique de transformation est aussi une grande consommatrice d'eau douce. Le PFAS dont nous avons déjà parlé, sont désormais très présents au niveau de cette eau.
Alors, je pense qu'il faut quand même que tu nous rappelles, parce que...
Voilà. Donc, les PFAS, ce sont les fameux polluants éternels dont on a parlé, que l'on trouve entre autres dans les poêles Tefal et dans beaucoup d'autres ustensiles de cuisine. Et quand ils sont jetés au rebut, vont se retrouver ensuite dans la nature de façon plus ou moins permanente. Donc, on va retrouver ces déchets au niveau de l'eau. Et comme il n'existe pas de seuil établi aujourd'hui qui sont liés à la consommation des eaux, alors on évite au niveau politique de normaliser ceci afin de permettre aux industriels de l'eau de continuer à engranger des bénéfices. Mais en principe, on devrait fixer des seuils au-delà desquels l'eau ne doit plus être consommée parce que justement on a peut-être trop de téflon, trop de différents organismes. Mais on se garde bien de bloquer l'industrialisation de l'eau. On a évité donc de le normaliser et les citoyens sauront bien hélas retrouver les responsables politiques lorsque de plus en plus de problèmes de santé liés à ces PFAS surviendront. Mais il sera malheureusement trop tard à ce moment-là.
Et sur quel autre niveau ou plan on peut évoquer le sujet de la pollution de l'eau ?
Alors à l'international, donc beaucoup en ont déjà entendu parler, entre autres à travers les usines de désalinisation de l'eau de mer. Alors il y a en réalité, il y en a très peu, hein, car leur rentabilité économique n'est pas du tout intéressante. Cependant, elles sont très utilisées dans les pays du Golfe. Et ce, non pas pour permettre à leurs concitoyens d'étancher leur soif, mais pour permettre le transport du pétrole vers la surface. Alors il en est de même aux États-Unis, mais dans ce cas on va carrément utiliser les eaux douces via le système de canalisation pour ce faire, donc c'est une vraie catastrophe écologique. Il en va de même pour la fracturation des terres de surface contenant les métaux rares, avec de l'eau et de l'acide sulfurique, et pour le gaz de schiste. Alors globalement, il est tellement plus facile de culpabiliser le citoyen plutôt que de transformer les usages à l'échelle économique que nos gouvernements ne se gênent pas. Alors du reste, nous commençons à en avoir l'habitude sur tous les sujets. Alors un dernier point est l'agroalimentaire. Et cela, pour nous particuliers, nous avons les moyens d'agir en ne consommant que peu de viande rouge et en bannissant le maïs, le soja et autres produits consommateurs en eau de notre alimentation. Donc pour ceux qui voudraient un peu approfondir leurs connaissances, moi je peux que conseiller de lire le livre de Charlène Descollonges qui est « Fake or not, l'eau ». Et c'est un petit peu notre hydrologue engagé et c'est un livre que tout à chacun devrait posséder chez soi pour mieux comprendre ce cycle.
Merci Jean-Aubert. Vous retrouverez en description deux liens, dont notamment une interview de Charlène Descollonges en vidéo. Donc on vous invite, si vous souhaitez creuser le sujet, à aller consulter ces liens. Merci beaucoup. Alain, c'est parti pour ta chronique. Jingle.
Avec Alain de Frémont.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Je voudrais vous parler d'une exposition très intéressante qui a lieu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au Trocadéro, jusqu'au 6 juin. C'est à voir en famille et c'est gratuit pour les enfants.
Ah, donc c'est l'historique du métro parisien.
Eh bien, pas seulement, parce que dès l'entrée, on est saisi par une vidéo montrant le travail de tunneliers à l'ouvrage pour le percement du tunnel de la fameuse ligne 15 du futur Grand Paris Express. Ensuite, on découvre les projets qui ont été réalisés ou pas dans différentes villes du monde. Et enfin, en avant pour la découverte de l'histoire du métropolitain parisien. Au milieu du 19e siècle, l'objectif est de desservir par un chemin de fer urbain une ville de plus en plus paralysée par les transports de surface. Se succèdent ensuite, durant un demi-siècle, des projets plus ou moins farfelus sur fond de conflits entre l'État et la ville de Paris. Mais l'imminence de l'exposition universelle de 1900 entraîne finalement, en 1895, la décision de mettre en œuvre un réseau souterrain, électrique et à gabarit réduit, ce qui marque la victoire de la ville de Paris. Après l'ouverture de la première ligne, le 19 juillet 1900, le succès rencontré entraîne rapidement la mise en œuvre d'un réseau de plus en plus vaste sous la direction de l'ingénieur Fulgence Bienvenu, d'où la station nommée Montparnasse
oui.
Bienvenu, entraînant des travaux spectaculaires au cœur de la capitale. D'abord limité à Paris intramuros, le réseau dessert aussi la banlieue à partir de 1934. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le réseau se développe sur 159 km pour 14 lignes et 332 stations. Le trafic connaît une croissance spectaculaire et le milliard de voyageurs annuels est atteint durant l'occupation. On découvre ensuite une reproduction en taille réelle de l'intérieur d'un wagon avec les publicités de l'époque et surtout un ancien plan de grande taille des stations du métro parisien où, depuis la station où l'on se trouvait, il suffisait d'appuyer sur le nom de la station à atteindre pour voir apparaître plein de petites ampoules lumineuses qui s'éclairent jusqu'à la destination, avec des changements matérialisés par des ampoules de couleurs différentes. Un vrai plaisir ludique. Ouais. La maquette du sous-sol de la station Opéra est aussi surprenante, comme des dizaines d'autres vidéos, maquettes, plans et détails que je préfère vous laisser découvrir. On aborde alors la grande salle où l'on découvre le trajet des lignes du futur Grand Paris Express avec ses gares, toutes différentes, tant dans leur conception que dans leur architecture et leur design décoratif. Parmi eux, des artistes de renom tels Eva Jospin, Dominique Perrault, Abdelkader Benchama, Prusse Nouri, et parmi elles, la future gare du Pont de Sèvres sur la ligne 15, qui permettra de rejoindre, après un changement à Villejuif, l'aéroport d'Orly via la ligne 14. C'est à ne pas manquer avant le 6 juin, Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Trocadéro.
Est-ce que tu te souviens de ce film de Louis Malle, Zazie dans le métro,
oui,
avec Philippe Noiret?
Oui, tout à fait.
Il était un grand moment.
C'est évoqué dans l'exposition.
Forcément. Merci beaucoup, Alain, pour cette chronique. Donc, tout ça, ça se passe à un petit coup de bus 171 et quelques stations de métro. C'est parfait. Merci pour tout. C'était Jonathan Bord et toute l'équipe pour cette 80e émission. Rendez-vous la semaine prochaine et bonne fin de journée.